D'abord, merci pour l'invitation. Alors, moi, évidemment, j'ai les sales habitudes des profs du NIF, ce qui fait que je suis parfois un peu rapide dans ma manière de parler. Si jamais je vais trop vite, vous me faites signe, vous m'interrompez, on revient en arrière, parce que j'ai l'habitude de débiter comme ça de la matière à haute dose pour bien bourrer le cerveau de mes étudiants. Alors, une autre chose évidemment importante à dire, c'est que moi, je n'ai jamais travaillé vraiment sur la figure du geek en tant que telle, mais elle est revenue dans plusieurs travaux que j'ai faits, notamment sur les institutions d'enseignement supérieur. Je vais un peu, du coup, parler de certaines institutions d'enseignement supérieur, un peu sur le food porn. J'ai fait 2-3 trucs sur le food porn, et puis là, il y a eu des trucs qui sont passés. Je vais un peu parler de ça. Enfin voilà, et donc vous allez voir, je vais raccrocher progressivement à une série de trucs qui sont mes travaux de recherche, même si le geek en tant que tel a jamais été vraiment mon sujet de recherche, alors qu'il y a plusieurs chercheurs, notamment français, qui ont vraiment se sont spécialisés là-dessus, même si leurs travaux sont parfois questionnables, mais je reviendrai là-dessus. Alors, moi je suis sociologue, comme Lionel a dit, et les sociologues, la première chose qu'ils ont envie de faire quand on leur dit « il faut parler d'un groupe social », c'est d'essayer de découper le groupe social sur le papier. Vous voyez, par exemple, on me demande de parler des profs du NIF. Là, c'est pratique parce que je sais facilement les identifier. Et puis alors, je peux faire des stats sur leur origine sociale, les diplômes de leurs parents, leur âge, le fait que ce soit des hommes, des femmes. Je peux utiliser les ethnotypes. Voilà. Alors ça, je suis heureux. Comme la plupart des sociologues un peu bornés. Mais en fait, quand on pose la question du geek, très rapidement, on est un peu emmerdé parce qu'on a du mal à découper sur le papier. C'est un peu un truc évanescent. On n'arrive pas à créer des critères, tout ça. Et donc, forcément, la première chose que vous faites comme tout chercheur, c'est ouvrir Google. Et puis vous tapez geek et puis vous appuyez sur enter. Et c'est chouette parce que alors du coup vous avez potentiellement des définitions qui apparaissent. Et la première chose que vous voyez forcément c'est Wikipédia, hein, puisque ça fonctionne bien pour ça Google, ça envoie systématiquement Wikipédia. Et vous avez là des chouettes définitions. Alors c'est sympa les définitions Wikipédia parce que ça fait ce que toutes les encyclopédies font. Ça commence par l'étymologie. Alors, c'est un truc très fort, hein. On a une croyance très forte, tous, qui est que si on connaît l'étymologie d'un mot, on va comprendre la réalité qu'il recouvre. Alors qu'en réalité, l'étymologie, elle peut très bien ne rien signifier. Ce qui fait évidemment le sens des mots, c'est leur usage. Ce n'est pas des étudiants d'une école d'art que je dois apprendre ça, mais... il n'y a pas de sens intrinsèque à un mot. Hein. Un mot n'a pas de sens, indépendamment des usages qui sont faits. Mais bon, on croit comme ça qu'il y a une magie dans les mots et qu'ils sont porteurs de sens par une espèce d'effet, de trace qu'ils laissent dans l'histoire. Et c'est évidemment ce qu'on croit sur geek. Et donc, quand on ouvre Wikipédia, on arrive sur un mot qui est geek, hein, qui est la racine allemande qui désigne les fous. Et alors c'est bien parce que Wikipédia va vous dire les geeks en plus c'est un personnage de carnaval. Alors c'est chouette que ce soit un personnage de carnaval parce que ça permet de faire un lien avec un truc qui se développe aux États-Unis à partir du 19e siècle qui sont les freak shows. Vous voyez ce que c'est un freak show? C'est un stand de foire assez marrant où on montre des gens qui ont des anormalités physiques. Par exemple, moi, je suis un grand brûlé, j'ai un peu une peau de lézard, alors on pourrait m'appeler l'homme lézard et me mettre dans un freak show. C'est pas mal. Voilà, si vous avez une difformité, peu importe laquelle, vous pourriez être dans un freak show. Et en fait, il y a un autre nom qui est utilisé comme synonyme tout au long du 19e et au début du 20e, c'est geek, hein, évidemment. Geek et freak, c'est un peu synonyme. Et donc, l'histoire de l'étymologie du mot et la socio-histoire du mot vous raconte cette histoire qui est que, voilà, c'est utilisé dans les foires aux États-Unis. Et puis, forcément, à un moment, ça a été repris pour désigner finalement tous les gens qui étaient un peu différents. singulièrement sur les campus américains. Et que donc finalement, un geek, c'est quelqu'un qui est un peu différent sur un campus. C'est pas le quarterback, c'est pas la pom-pom girl qui sont eux les gens normaux, ceux qui sont bien intégrés, ceux qui, à qui il faut ressembler, c'est ceux qui sont un peu bizarres, un peu en décalage. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette histoire du mot, c'est que elle est fausse, hein, forcément, vous vous en doutez. Et elle est d'autant plus fausse que le mot apparaît vraiment de manière systématique pour désigner des gens que dans les années 50. Et il apparaît pas n'importe où, il apparaît dans la littérature. Il apparaît chez Truman Capote. Vous voyez qui est Truman Capote? Ouais, c'est bon. Un grand écrivain américain. Et il y a un bouquin qui est super connu, qui est In Cold Blood, hein, de sang-froid. Qui est le récit d'une série d'assassinats basés en fait sur les témoignages du psychopathe qui les a perpétrés et qui c'est romancé hein, mais semi-romancé et c'est assez fort, ça vaut la peine de lire. Et en fait vous verrez que Truman Capote utilise geek pour désigner ces gens renfermés sur eux-mêmes mais qu'ils suspectent d'être foncièrement très intelligents. En gros, ils utilisent geek pour désigner des psychopathes. Et il y a ces deux composantes chez lui. Il y a vraiment cette idée, ils sont un peu différents, ils sont socialement handicapés, mais ils sont aussi super intelligents. Et c'est ces usages de la littérature qui vont progressivement arriver dans la littérature de science-fiction dans la littérature de science-fiction des années 70. Et c'est à partir de là que le mot va percoler. En fait, c'est pas un mot qui vient d'une désignation sociologique, comme peut vous laisser croire l'étymologie fausse de Wikipédia, mais c'est un mot qui, dès la base, est une espèce de mythe littéraire. Alors, forcément, à partir de là, vous êtes un peu emmerdé quand vous êtes sociologue, parce que vous dites, aïe, 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 ce truc, ça a l'air d'être fort, une représentation collective, un truc qui est construit quelque part dans l'imaginaire, et alors du coup, ça va être difficile de pouvoir l'attaquer, parce que les outils de la sociologie sont faits pour des groupes sociaux très concrets. Vous voyez, les profs du NIF, c'est facile. Je sais les identifier, je peux aller en agresser un, c'est facile. Un geek, je ne sais jamais vraiment si, quand je l'agresse, il est geek ou il n'est pas geek, il y a un problème là derrière. Alors, dans notre volonté absolue de maîtrise du monde et d'étiquetage des individus, qui nous fait ressembler à cette machine-là, qu'est-ce qu'on fait? On va de nouveau sur Google et on regarde les images. Dès qu'on parle d'imaginaire, les sociologues, ils font ça, ils regardent les images. Ils aiment bien ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai tapé geek. Et puis on voit qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même des traits qui sont caractéristiques dans les images. Il y a quand même ces lunettes, il y a quand même. Ces dents proéminentes, il y a quand même ce lien plus ou moins clair à l'informatique, il y a le nœud papillon, mais enfin voilà. Vous voyez qu'il y a quand même une image là derrière, et donc forcément, il y a peut-être moyen de circonscrire un petit peu ce que c'est. Alors, ce qu'ont fait des collègues pour s'en sortir, ben, c'est travailler sur les deux axes qui sont possibles par rapport à des images. La première, c'est l'auto-identification. En gros, ils ont demandé aux gens, est-ce que vous sentez geek? Est-ce que vous vous définissez comme geek? C'est assez pratique. Le grand problème, c'est que là, évidemment, pour un sociologue qui aime découper tout seul la société sur le papier, c'est problématique parce que quelqu'un peut tout à fait se dire geek sans vraiment faire partie d'un groupe social. Parce qu'un groupe social, pour nous, c'est quand même un truc qui est assez unifié, où il y a des codes qui sont partagés, où il y a des éléments qui permettent de réunir les gens à l'intérieur du groupe. Alors, un exemple hein, d'article super connu sur l'auto-identification, c'est cet article formidable, Digital Subculture, Geek Meaning of Style. Alors, en gros, l'idée de cet auteur qui est un sociologue slash docteur en communication, c'est de dire, en fait, les geeks types, ce sont ces jeunes sur Internet qui développent une sous-culture de l'Internet Et donc, je vais aller sur les forums où les gens s'autodéfinissent geek parce qu'il y a mis geek dans le nom du forum. Et je vais regarder ce qu'ils font ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir les identifier. Ça, c'est une première approche de sociologue. Deuxième approche de sociologue, qui est beaucoup plus empreinte des de cultural studies, c'est quoi ? C'est travailler sur les stéréotypes. Et là, ben, un article super intéressant que je vous invite à lire, c'est un article de Fauchet. C'est la figure du geek comme stratégie de lecture, naviguer dans la pop culture à l'ère du surplus culturel. Alors, il y a déjà plein de concepts rien que dans le titre. C'est super compliqué. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, je prends un auteur et je regarde un personnage qu'il nomme geek. Et alors, c'est pas mal parce qu'il y trouve un auteur qui parle de geek sur 10 ans d'intervalle. Et il compare la figure du geek dans les années 90, dans les bouquins des années 90, et la figure du geek dans les années 2000. Et montre en fait qu'il y a une transformation complète de cette figure stéréotypée, et que par là, on peut en déduire qu'il y a une évolution dans la manière même d'envisager la culture. Je vais passer sur la notion de pop culture, tout ça, vous verrez ça certainement un jour dans vos cours. Alors, ça, ces deux approches, c'est assez valide, mais ça pose quand même des limites, forcément. Dans un cas, vous restez finalement dans un imaginaire, vous vous raccrochez jamais à un groupe social. De l'autre côté, vous n'êtes jamais vraiment sûr que ce groupe social existe réellement. Vous êtes toujours dans quelque chose qui est de l'ordre d'une auto-affirmation floue. Alors, quelle est la porte de sortie pour nous ? Ça va être d'essayer de trouver une synthèse entre les deux. Alors, je voulais juste vous montrer ceci. Ça, c'est un outil que j'adore, qui s'appelle Ngram. Ça permet de faire une recherche dans tous les livres qui sont numérisés par Google, dans l'énorme truc Google Books. Et vous pouvez faire une recherche assez exacte entre 1800, donc tous les bouquins qui datent de 1800, jusque 2000. Après 2000, le corpus est bourré d'erreurs, donc ça ne vaut pas la peine. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que je voulais vous montrer à quel point le problème du geek, c'est vraiment un problème hyper contemporain. Vous voyez, il y a deux, trois pics ici, aux alentours du 19e siècle. En fait, c'est les rééditions des pièces de Shakespeare dans lesquelles il utilise le mot geek dans son sens historique, c'est-à-dire c'est des fous de foire. Et puis, en fait, vous voyez que l'intérêt pour les geeks, c'est vraiment un truc qui a commencé que dans les années 90. Et qu'on a une explosion de la littérature à partir de là. Donc il y a forcément quelque chose là qu'on doit analyser, qu'on doit creuser. Et en fait, comment on fait la synthèse la plupart du temps ? Ben, on essaie d'aller vers des critères. Alors comment est-ce que j'ai fait ici ? J'ai simplement regardé dans tous les bouquins qui parlent de geek, et j'ai regardé ce qu'ils avaient en commun. Il y a un critère qui est une passion pour une dimension technique liée au digital, hein, le digital, et se rapprochant de l'obsession. Deux, une certaine intelligence, hein, c'est ça, le leitmotiv qui revient. Trois, un certain handicap social. Alors là, tout de suite, Wikipédia, par exemple, va vous dire, attention, hein, mais un geek, c'est pas un nerd, c'est pas la même chose, c'est pas un no-life non plus, mais c'est un peu comme un no-life et c'est quand même un peu un nerd. Voilà, ce qui est pratique, hein, quand vous essayez de trouver des gens à interroger. Il y a une série large de codes spécifiques, il y a une subculture geek qui existe. Alors, tous les auteurs sont d'accord là-dessus. Je vous ai mis ici juste trois bouquins qui sont vraiment des bouquins de référence, quoi. C'est les trucs que tout le monde cite. Alors, le premier, Geek Sheet du Ultimate Guide to Geek Culture, c'est vraiment un bouquin qui est... C'est la limite entre la pop science et la science, si vous voulez. C'est un peu un truc où on a essayé de prouver que le truc existe, et donc il y a une espèce de guide de critères. Mais en fait, ils reviennent aux critères qui sont juste avant. Et puis après, ils disent juste, ben, parfois il y a des mots en commun à une série de groupes, mais ils n'expliquent pas en quoi ces groupes sont des geeks. Alors ça, c'est un bouquin que j'aime bien, le bouquin d'Inès. C'est Women in Popular Culture, Geek Chic. Alors c'est intéressant parce que sur le coup, le bouquin s'ouvre sur une interrogation qui est, mais jusque-là, le geek c'est quand même un homme blanc Oui, les photos qu'on a vues sur Google Images, c'est un homme blanc, un peu intelligent, un peu sexiste en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un handicap social. Alors nous, on va réhabiliter la femme dans l'histoire face à cette figure machiste. Et donc, il propose en gros de genrer et de discuter le geek dans une perspective de genre. Mais de nouveau, le problème est le même, c'est qu'il n'y a, y a pas d'interview, il n'y a pas de personne derrière. On fait une analyse des stéréotypes, mais on n'arrive pas à trouver des gens. Alors la troisième référence, c'est vraiment la référence absolue, la thèse qui fait bam, c'est Culture Geek. C'est une thèse en fait qui a été après publiée sous forme de bouquin. Alors c'est intéressant, c'est là parce que Perron il part d'une idée qui est assez intelligente, qui est de dire en fait peut-être que le geek existe comme stéréotype a priori, mais vu qu'il y a une série de personnes qui finissent par se revendiquer de l'étiquette, il y a peut-être un phénomène de convergence culturelle. C'est-à-dire que parce qu'on a parlé du geek dans toute une série de médias, progressivement, on est en train de lui rendre une réalité. Si vous voulez, en fait, parce qu'on a imposé une étiquette, on est en train de créer une catégorie sociale parce que des gens s'y identifient. Alors, moi, je propose une autre idée. C'est de dire qu'en fait, c'est plus qu'un phénomène de convergence culturelle, c'est carrément un mythe. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a déjà entendu parler de Barthes? Mythologie? Oui? Non? Ok. En gros, mon idée, c'est la suivante. C'est un truc qui date hein, déjà, mythologie de Roland Barthes, c'est vraiment. C'est la base de la Seigneau, d'une branche de la Seigneau. L'idée, c'est que vous avez autour de vous, dans la vie quotidienne, toute une série d'objets qui signifient beaucoup plus que ce qu'ils semblent signifier a priori. Alors, comment est-ce qu'on analyse un mythe? On regarde d'abord le niveau du langage. Alors, je vous ai pris un exemple qui est très geek, pour le coup, qui est l'exemple de Batman. Batman, quand je regarde Batman, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme chauve-souris, Batman, voilà, j'ai en face de moi, avec sa cape, pas ridicule. Voilà. Je vois Batman. Donc ça signifie quelque chose. Je sais qu'il signifie quelque chose. C'est quoi? C'est un super-héros milliardaire augmenté qui combat le crime. Okay. Le signifiant Batman, le chauve-souris, là, celui que je pourrais avoir en face de moi, plus le signifié, tout ce que je sais de cette espèce d'histoire, ça crée un signe. Alors là, on est resté au niveau du langage, on n'est pas rentré dans le niveau des concepts. Ce signe, en fait, c'est bêtement Batman, le chauve-souris, est un milliardaire super-héros qui combat le crime. Vous voyez, c'est la synthèse du signifiant et du signifiant. Mais il y a un deuxième signifiant. Face au crime, il faut un super-héros. C'est ce que dit Batman. Batman, c'est face au crime dans une société hyper corrompue, il faut un super-héros absolument. Et quelle est la signification qu'il y a derrière ça? C'est que la société a besoin d'héros purs, d'héros intransigeants, indépendants des institutions publiques. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient milliardaires. C'est ce qui lui permet d'avoir la thune de développer complètement en toute autonomie son propre système juridique, prêt à se marginaliser, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une chauve-souris, hein, et qui se dévoue totalement à cette quête. Hein. Batman, c'est un héros absolu, c'est un héros qui se donne à fond. Et ça, c'est un mythe, ça, c'est un pur mythe, c'est quelque chose qui a un contenu idéologique profond. Et qui est en réalité immédiat lorsqu'on parle de Batman. Lorsqu'on parle de Batman, on sait tout ça. On sait que c'est un justicier milliardaire qui est autonome, qui est pur, qui permet de combler toutes les lacunes de l'État, etc. Et là, on est évidemment au niveau du métalangage, on n'est plus au niveau du discours, on n'est plus au niveau du signe, on n'est plus au niveau des choses immédiates. Bon, alors je suis désolé parce que je passe très vite là-dessus, mais je n'ai pas vraiment l'occasion de vous faire un vrai cours de signaux. Mon idée, c'est que le geek, c'est quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'on a des images immédiates, mais il y a toute une signification sous-jacente qui en font un véritable mythe. Alors, si c'est un mythe, en fait, l'auto-affirmation, c'est forcément une réappropriation. Quand vous dites je suis Batman, vous réappropriez le mythe de Batman. Vous dites quelque chose sur vous-même
qui est une réappropriation du mythe de Batman, c'est la même chose pour lui. Et comment est-ce que je peux analyser ça? Je peux analyser ça que via des études de cas. Et c'est pour ça que j'ai proposé ici de travailler sur une série de petites études de cas. On va d'abord commencer par le geek et les normes sociales. Et je vais vous parler de Pizza Hawaii. Puis le geek et le collectivisme. Alors je vais vous parler un peu du Borg de Star Trek. Et un peu des Borg, mais ça je suis pas sûr de parler beaucoup. Les Borg, c'est les jeux massivement multijoueurs en ligne. Je vais vous parler un peu de geek et de bien commun avec un personnage que j'aime beaucoup, un peu illuminé, je vous dirais. Puis de geek et d'individualisme, alors là je vais vous parler d'un personnage pour le coup mais beaucoup moins sympathique, qui est le patron de Facebook. Et puis on va finir par parler un peu de porno, forcément je travaille là-dessus. Alors c'est parti. D'abord, on va parler de cette beauté, hein, The Méculinaire. Alors c'est quoi? C'est la pizza Hawaii qui a été inventée dans les années 60 en Ontario et qui est la pizza la plus consommée au monde. Ça fait peur. Il faut savoir que c'est la pizza préférée de tout le monde anglo-saxon encore aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de pizza Hawaii? Parce que la pizza Hawaii est associée à une image type, qui est l'image type de cet informaticien dégueulasse. Qui a une hygiène de vie un peu immonde, qui est entourée d'ailleurs d'IBM reconnaissables. Voilà. Vous connaissez cet informaticien-là, hein? C'est
Jurassic Park.
Oui, c'est dans Jurassic Park, effectivement. C'est le méchant de Jurassic Park. C'est déjà un peu un dinosaure pour nous, lui aussi, hein, parce que vous voyez, il y a quand même ce truc très typé des années 90, enfin, fin des années 80. Et en fait, ce personnage-là, ce stéréotype-là, c'est un stéréotype évident de la fiction d'une époque. Donc, fin des années 80, début des années 90, vous allez voir énormément de programmateurs dans les séries, dans les films, qui sont tous représentés comme lui. Ils boivent cette chose, des sodas. Ils bouffent de la pizza, ça c'est important. Ils ont des sales chemises hawaïennes. Enfin voilà, c'est toute une image. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse au forum où les gens s'autodéfinissent geek dans les années 90, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a un truc formidable qui s'appelle l'IRC, l'IRC, ça a des archives très anciennes, notamment sur les serveurs FNET. Eh bien, on voit que il y a toute une série de ces codes qui sont en fait réclamés par les gens comme étant des identifiants, des marqueurs culturels qui les rassemblent. Alors, je vous ai pris deux exemples tirés de chat IRC. Le premier, c'est le channel DOS, hein, donc on parle de programmation DOS. Ça date du 14 octobre 1998, et ces gens s'autodéfinissent comme des geeks très clairement. Donc, dans la définition même du channel, il est mis « for the DOS geeks ». Alors, je fais un peu de traduction, hein, c'est peut-être nécessaire. F-Coach dit, voilà, « eating pizza with PPHD ». Un PPHD, c'est Dr. Pepper, hein, forcément. PhD, c'est pour le doctorat en anglais. Evil KF qui dit « great diet ». Noé qui répond « food porn, food porn ». F-Coach dit « only kind of porn », hein, vous voyez. Ce qui est cliqué de babe, chewing pineapple, c'est-à-dire je mastique l'ananas. Donc vous pouvez en conclure que forcément c'est une pizza Hawaii. Et puis, conclusion, pineapple, c'est les boobs for losers. Hein, c'est les seins pour les losers. Alors, vous pouvez vous dire que c'est un exemple complètement isolé, mais non, c'est formidable, parce que quand vous tapez geek et pizza Hawaii, vous avez plus d'une centaine de résultats qui arrivent. Alors, je vous ai mis un autre exemple. C'est quand même, c'est une grande question. Nim qui dit, voilà, do Hawaiians, oui, bon, il est plus mal Hawaiians, voilà, eat pizza, Hawaiian pizza. Grande question existentielle, est-ce que les Hawaïens mangent des pizzas Hawaïens? Mom répond, dude, everyone eats it. Alors, il y a un jeu de mots, évidemment, avec eat IT. Nim, I feel it's the best pizza. Monk est totalement d'accord. Nim, it's the only geek pizza. C'est la seule pizza geek, attention. Et là, il y a un gros problème parce que, non, il y a Peter Ronick qui est aussi geek que l'autre. Et Pourquoi? Parce que Mario, donc le personnage Super Mario, mange la pepperoni pizza. D'où, bah, c'est du food porn. Food porn, il y a une kind of porn. Alors ça, vous allez voir que si vous faites une recherche sur ce qu'on aurait fait, vous avez tout le temps ce leitmotiv qui revient, food porn, il y a une kind of porn. Et là, c'était sur le channel Star Trek. Hein? Channel qui est assez fréquenté à l'époque. Voilà. Alors, c'est intéressant cette histoire de food porn et de lien avec les geeks. Pourquoi? Parce que le food porn, en fait, l'expression food porn ne vient pas de nulle part. À la base, la première fois que ça a été utilisé, l'expression food porn, c'est dans les années 70, par la newsletter d'un centre pour l'hygiène publique qui a été fondé en fait par un ancien du MIT, un médecin, qui voulait faire en sorte que les Américains mangent mieux. Et il a créé un gros centre d'hygiène alimentaire. Et à partir de la fin des années 70, il a publié une lettre mensuelle qui est progressivement devenue d'ailleurs hebdomadaire, avec sur la gauche les right stuff et sur la droite les food porn. Et il utilise le mot volontairement dès la base pour dire le food porn, c'est tout ce qui est complètement hors de proportion, tellement c'est gras, c'est sucré, c'est tout ce qui est vraiment hyper malsain, donc c'est forcément pornographique. Et alors c'est amusant parce que, en fait, cette newsletter est un truc qui s'est diffusé très très largement. Donc c'est un truc, encore actuellement, 80% des Américains sont abonnés d'une manière ou d'une autre à cette newsletter. Et on voit que dès les débuts des discussions sur l'IRC, en fait, les gens reprennent cette expression « food porn », mais dans le sens pas du tout de se dire « Oh mon Dieu, ce que je fais, c'est très mal, il faudrait que j'aille vers les high stuff. » Non, il l'utilise pour dire « Oui, je transgresse les normes alimentaires, je fais un truc vraiment très grave, je vais jusqu'au bout de mon délire, je bouffe de la pizza hawaïenne, méga grasse, méga sucrée, et j'emmerde le monde. » Et en fait, c'est ça qui est intéressant là derrière, c'est que dans ces discussions, ouais, on a d'emblée une espèce de revendication d'être hors des normes du convenable et qui va servir de point commun à toute une série de gens qui se revendiquent, comme je vous l'ai dit, d'être geeks. Et donc il y a là quelque chose d'intéressant, une première grille d'analyse derrière cette revendication, c'est finalement les geeks de l'époque qui s'affirment là ont une volonté commune d'afficher une certaine transgression d'une série de normes d'hygiène. Ils sont prêts à récupérer d'ailleurs le mot utilisé dans un sens très moralisateur par un gars sorti du MIT, ce qui est par hasard, parce que la plupart des jeunes geeks qui s'affirment comme geeks dans les années 90 sont eux-mêmes inscrits au MIT, on va en reparler. Et c'est assez intéressant du coup de voir qu'il y a vraiment une volonté là derrière de subversion, mais subversion assez adolescentaire évidemment, hein, vous voyez, en gros, dire je mange de la pizza et c'est du food porn, ça reste quand même, on n'est pas en train de changer le monde, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que c'est devenu le food porn. Ouais. En fait, après, ce qui est intéressant, c'est que le food porn a un peu disparu, l'expression a un peu disparu jusqu'en 2005-2006. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005-2006? En fait, il y a eu l'ouverture de Twitter. Et Twitter s'ouvre, et puis très rapidement, le hashtag food porn fait son apparition. Il apparaît et se diffuse très très largement. Et en fait, les premiers utilisateurs du mot, c'est des gens qui ont un profil sociologique très particulier. C'est les jeunes cadres des boîtes IT de New York, en fait, qui utilisent le mot pour parler de leur lunch, leur pause lunch. Et leur pause lunch, c'est ce genre de choses, hein, c'est d'un burger excessivement gras. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, ces gens qui sont des jeunes cadres d'IT ont des caractéristiques sociologiques qui sont fort différentes des gens qui étaient sur l'IRC dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ils sont plus aux études, c'est des jeunes cadres professionnels. Ils ont été influencés certainement par l'ambiance qui a pu exister dans les centres des universités qu'ils ont fréquentées, mais ils se réapproprient le mot. Ils en font un truc, finalement, d'auto-affirmation, mais beaucoup plus sous le ton de la blague socialement acceptable, parce qu'ils tweetent ça au milieu de toute une série de choses, d'images de leur quotidien. Et le terme par là va commencer à circuler, à progressivement passer d'un milieu social à l'autre. Et le terme devient ce qu'on appelle un circulem, c'est-à-dire en fait un terme dont le contenu lui-même finit par se diffuser tellement qu'il n'a plus signification en tant que tel. Et c'est intéressant parce que forcément, alors qu'à la base on a une affirmation de la réalité de Foucault qui est l'idée d'une transgression assumée, progressivement par cet effet de circulation, on a un effet de mainstream, un effet de truc qui devient plus du tout transgressif, qui perd du sens. Finalement, tout le monde le fait, donc qu'est-ce que ça change? Et on voit aussi des récupérations beaucoup plus globales, puisqu'aujourd'hui, même les grands cuisiniers, quand ils sont en cuisine, prennent des photos de leur réalisation et disent « ben voilà, je fais du food porn ». Si vous vous abonnez, par exemple, au fil de la Tour d'Argent, hein, à Paris, vous verrez qu'il y a du food porn en permanence, du hashtag food porn en permanence utilisé par les grands chefs. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça précisément parce que derrière cette idée de la figure du geek, il y a deux temps qu'on peut identifier. Le premier temps, c'est celui des années 90, où on est encore dans une forme de subversion. Et puis le deuxième temps, c'est le temps des années 2000, où finalement, on a l'effet de mainstreamisation, et ça, je vais y revenir sur les autres études de cas. Alors, passons donc à une deuxième étude de cas. Et pour parler de la deuxième étude de cas, je vais parler du bord. Ouais.
Tu parlais jusqu'ici des IRC et du MIT. Ça suppose que la culture naît aux États-Unis.
Oui, mais alors, c'est une bonne question. En fait, non. Elle est divisée en deux branches, à mon avis, mais après, on peut en discuter. Mais l'essentiel de ce qu'on va voir dans la littérature, etc., va se référer au geek américain. En réalité, il existe un geek français, et je vais revenir sur le geek français un peu à la fin quand je vais vous parler de Minitel. Voilà. Mais il faut parler de Minitel, parce que Minitel, c'est un objet culte. Et donc, voilà. Mais gardez bien ça en tête, je reviendrai là-dessus. Mais pour l'instant, je vais beaucoup, beaucoup parler des Américains, parce qu'en fait, c'est vraiment une image hyper dominante. Puis c'est aussi les médias qui sont dominants, hein. C'est la production de films, la production de séries est largement dominante depuis les États-Unis. Alors, je vous parle de ceci dans un instant. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est?
Terminator.
Yeah.
Terminator.
Non, c'est pas Terminator. C'est un cyborg. Waouh! Il a dit, en fait c'est un cyborg, c'est pas n'importe quel cyborg, c'est même le cyborg par excellence, c'est le Borg. Alors, le Borg de Borg, c'est l'ennemi le plus redoutable et le plus effroyable de tous les ennemis dans Star Trek. Alors, quelles sont les caractéristiques du Borg? Le Borg est un organisme composé de toute une myriade d'individus assimilés. Donc c'est un truc qui débarque sur votre planète, disons, qui vous assimile en vous injectant une série de nanoprobes, en changeant progressivement votre physique. Il va changer toutes les parties qu'il juge pas très utiles. Il va mettre des bras mécaniques, des jambes mécaniques, tout ça. Éventuellement améliorer votre vision, voilà. Et puis, par ces nanoprobes, il va vous connecter à une conscience collective qui fait qu'en fait, c'est pas un individu, c'est un collectif. Et le Borg, c'est vraiment un truc qui, dans Star Trek, est vu comme l'horreur la plus ultime, c'est d'ailleurs le méchant que la Fédération a le plus de mal à combattre, parce qu'ils sont hyper efficaces. Et en fait, ils vont jamais même réussir à se débarrasser du Borg, le Borg va s'autodétruire en assimilant en fait une espèce qu'il n'arrive pas à assimiler. C'est cette méchante espèce qui vit dans un univers parallèle, voilà, qui va progressivement les contaminer et faire en sorte qu'ils vont disparaître progressivement. Ce qui est intéressant dans le Borg, c'est que c'est évidemment une caricature de système collectiviste. Ce que les scénaristes de Star Trek essayaient de faire passer comme message essentiel, vous savez, Star Trek, c'est un pamphlet idéologique, hein. Les scénaristes de Star Trek étaient ouvertement des militants républicains qui défendaient une vision particulière de la société, notamment la nécessité de faire des guerres pour l'objet, hein. Ils ont repris, dans certains épisodes, des textes entiers de Kissinger. Hein, donc il y a des dialogues comme ça, où en fait, c'est un petit bout de Kissinger, un petit bout de Kissinger, un petit bout de Kissinger. Donc c'est vraiment intéressant de regarder Star Trek en sachant ça. Et surtout Star Trek Nouvelle Génération, qui est la partie de la série où vous avez ce méchant-là. Et donc évidemment, le Borg est vu par ces scénaristes comme la chose la plus horrible possible. C'est un régime collectiviste absolu qui nie complètement l'existence d'individus. Et donc, c'est horrible. Et face à ça, évidemment, la Fédération, qui est composée d'individus au talent multiple, qui sont tous brillants, chacun à leur manière, etc. Et en fait, le truc qui ne s'attendait pas, c'est que le Borg est l'ennemi qui a le plus plu aux fans, au point que les fans ont commencé à préférer s'habiller en Borg que s'habiller en Klingon ou que s'habiller en personnage de la Fédération. En fait, ce truc a pris super bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes, un peu paniqués en se rendant compte qu'il y avait une adhésion en fait au Borg, ont eux-mêmes décidé lors de Comic-Con, hein, vous voyez les grandes conférences américaines où il y a plein de cosplays, on présente tous les nouveaux films, etc. Ils ont décidé eux-mêmes de les qualifier de geeks, en disant « Ouais, mais ces gens-là, c'est des geeks, quoi. Ils aiment l'ennemi le plus dégueulasse. » Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cette communauté de fans s'est auto-qualifiée. C'est auto-qualifiée, effectivement. Ils ont dit « Bah oui, effectivement, on est des geeks de Star Trek. Voilà, on n'a pas de problème à s'auto-affirmer comme geeks. » Et effectivement, bah, nous, le Borg, ça nous intéresse. Alors pourquoi le Borg, ça les intéresse? Et c'est amusant parce que vous avez des échanges entre les scénaristes et la salle, comme ça, à Comic-Con, notamment en 92, qu'ils ont hyper tendus, où la salle répond. Et pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Parce que nous, on trouve qu'au moins les Borg, ils sont égalitaristes, quoi. Oui, mais c'est moche l'égalitarisme. Oui, mais non, on va pas avoir les problèmes, quoi. Bon, ok, mais et l'individu, bah, l'individu, c'est un peu des emmerdes par rapport à l'idée de la paix. Donc, finalement, le projet des Borg, c'est d'avoir la paix, donc on voit pas où est le souci. Alors, c'est amusant parce que c'est une deuxième figure de geek, une deuxième communauté qui s'auto-approprie la désignation, et c'est une communauté qui, en fait, vient en rupture sur un enjeu idéologique. Alors, juste pour l'anecdote, comment est-ce que les scénaristes s'en sont sortis? Ils ont finalement détruit le collectif. La seule manière qu'ils ont trouvé pour réussir à faire en sorte que finalement le Borg ne vienne plus cet objet mythique et de fascination, ça a été de dire, en fait, il faut absolument qu'on en fasse un vrai méchant, et pour en faire un vrai méchant, il faut qu'il y ait un individu qu'on puisse confronter au bon. Le bon, c'est le capitaine Picard, le capitaine du vaisseau de la Fédération. Le mauvais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on va en faire une femme, déjà. C'est toujours bien d'avoir une femme dans le rôle de mauvais. Pourquoi? Parce que la femme, forcément, c'est une question dans Star Trek, hein, vous verrez toujours. La femme, c'est toujours la libido. Hein. La femme, c'est pas la rationalité. Or, la Fédération, elle repose sur la rationalité la plus absolue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les personnages comme le commandant Spock, hein, vous voyez, qui incarne parfois cette ligne de rationalité absolue. Hein. Et donc en face, ben, forcément, on va mettre une espèce de puissance libidinale, tout ça. Donc on va faire une femme. Et on va faire une femme qui va être la reine. Quoi. Comme les abeilles ont une reine. Voilà. Donc forcément, la seule voie de sortie des scénaristes, c'était de construire une reine que vous avez là, à l'occasion d'un film absolument pourri. Et ce qui est intéressant, c'est que les fans ont été furieux. Les fans ont été furieux parce que justement, on détruisait tout l'intérêt qui était d'essayer de penser un collectif sans individu. Et les scénaristes, en fait, pouvaient pas s'en sortir. C'était impossible pour eux. Parce que eux-mêmes, dans leur manière de concevoir les choses, ne pouvaient penser que. Ils sont républicains, hyper libéraux. Ils pouvaient penser que en termes d'individus. Ils pouvaient pas penser à un collectif indépendamment des individus. Donc ils ont été obligés de créer un méchant unique. C'était la seule porte de sortie. Alors, ça a créé des tensions, je vous l'ai dit, ça a même créé des tensions tellement fortes. Il y a eu un boycott de la Comic Con juste après la sortie du film par tous les gens qui s'auto-affirmaient comme des fans du Borg. Alors, comme ça a l'air d'une anecdote pas très intéressante. En réalité, c'est une anecdote assez fascinante parce que c'est plusieurs milliers de personnes dont on parle. C'est pas un tout petit groupe, c'est plusieurs milliers de personnes et qui se sont auto-affirmées dans une idéologie tout à fait particulière. Qui est vraiment cette idée de il faut revenir à un collectif, il faut en finir avec une forme d'individualisme et aussi d'impérialisme individualiste qui est incarné parfaitement par la Fédération. Si vous regardez un peu Star Trek, la Fédération, elle fait quoi? Globalement, elle colonise des planètes, mais pour le bien des gens, avec une espèce de système d'assimilation démocratique qui ressemble finalement à la politique étrangère des États-Unis. C'est pas un hasard, je vous l'ai dit. Et bien, de la même manière, les fans ont critiqué au travers du Borg cette défense, cette manière de cet impérialisme-là, en finalement trouvant que l'autre impérialisme, l'impérialisme égalitaire, n'était pas pire en comparaison. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a l'air vraiment une dimension de réflexion collective autour d'éléments idéologiques, de tous les gens qui se placent là, pour le coup, en marginalité, pas juste dans une optique d'affirmation, de subversion d'une norme, mais bien dans une logique carrément idéologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, après, comment se structure ce rapport au collectif dans d'autres communautés qui s'auto-affirment. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les jeux massivement multijoueurs en ligne. Je sais pas s'il y a des joueurs ici, un peu. Ouais. Vous êtes dans une équipe? Vous jouez en équipe? Bien sûr, forcément. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, et ça, c'est tout l'enjeu de l'anthropologie des jeux vidéo maintenant, c'est de voir qu'en fait, les équipes, dans les jeux massivement multijoueurs, ont des organisations complètement différentes en fonction des contextes, en fonction des jeux, mais qu'il y a quand même un truc qui est tout à fait commun, qui a un rapport hyper égalitaire à l'intérieur de l'équipe, même s'il peut y avoir un leader temporaire. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde en particulier World of Warcraft, c'est qu'il y a plein de forums de jeux vidéo qui en parlent, les gens parlent de leur stratégie, parlent de leur approche du jeu, et sur ces forums, ce qui est bien, c'est qu'une grande partie d'entre eux s'auto-définissent comme étant geek. Alors moi, je suis content parce que j'ai mon auto-affirmation, ils sont geeks, donc je peux les regarder comme un groupe. Et alors, je peux regarder si eux aussi, ils ont un rapport particulier au collectif, mais cette fois-ci, plus dans une perspective qui est idéologique, mais une perspective pratique d'auto-organisation. Et là, on se rend compte qu'il y a des trucs tout à fait fascinants, notamment le rejet de certaines hiérarchies qui peuvent être parfois imposées même par les développeurs de jeux. Donc par exemple, il y a eu des engueulades assez terribles avec les développeurs de World of Warcraft qui voulaient absolument que dans les équipes, il y ait une structuration beaucoup plus verticale, en arguant du fait que certains sont beaucoup plus expérimentés que d'autres, ont beaucoup plus avancé dans le jeu que d'autres, et donc il faut pouvoir organiser les équipes de manière plus verticale, avec des pyramides, un chef, des sous-chefs, des sous-sous-chefs. Et les fans ont rejeté ça, de manière assez violente, avec l'argument qui est « Non, non, ce qui est bien l'enjeu, c'est aussi pouvoir faire des équipes où on initie certaines personnes, et on est sur un pied d'égalité dans une approche plus collective. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que particulièrement les lycéens belges, français, allemands, qui ont été très actifs dans la critique de ces tentatives de hiérarchisation. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant de nouveau, qui a vraiment cette espèce de résistance permanente, des gens qui s'auto-attribuent l'éthique à des mécanismes de promotion, finalement, d'une hiérarchisation sociale et d'une individualisation des rapports. L'émergence de l'individu particulièrement doué, etc. Et donc, j'en arrive à un élément qui est un élément central dans la thèse de David Perron dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est qu'en fait, le geek, c'est pas un pur produit de la culture individualiste, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, va s'opposer de manière assez systématique à toute tentative de promotion de cet individualisme forcené. Finalement, les geeks sont marqués par un rapport particulier au collectif. Ils veulent retourner ou trouver une forme d'organisation collective qui est particulière. Ce qui est intéressant quand on regarde les jeux massivement multijoueurs en ligne, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qui est vrai dans la réalité virtuelle du jeu se transpose en plus dans le comportement des gens à l'extérieur. Donc j'ai fait une série d'études avec des potes là-dessus. C'est tout à fait drôle de voir que les lycéens développent des sociabilités particulières à partir du moment où ils rentrent dans ces jeux. Et contrairement à l'idée qui voudrait que les addicts de jeux vidéo sont des gens qui se renferment progressivement sur eux-mêmes, ne font plus que ça, ils vivent dans un monde parallèle où ils sont isolés tout seuls, machin et tout, en fait ils augmentent leur sociabilité au travers de ces jeux, mais bon, ça c'est un détail, passons. Voilà. Alors, cette deuxième étude de cas, pour vous montrer un deuxième linéaire, un deuxième fil conducteur commun, qui est ce rapport au collectif qui est particulier. Du coup, je fais une pause maintenant, ce qui va me permettre de sauver un peu ma voix du désastre.